Aujourd'hui, on est obligé de voir la question de l'aide publique au développement en retournant la question, enfin en posant une autre question, en se demandant qui aide qui en fait. Parce que bon, a priori, c'est aux États riches d'aider les États pauvres. Eh ben, on va voir que c'est le contraire. Donc, je vais rappeler un petit peu la genèse de cette dette, de cette fameuse dette dont on entend de plus en plus parler. Actuellement dans les médias, vous avez certainement eu vent de l'initiative qui s'est terminée par un concert
au Versailles.
Alors je sais plus où c'était, mais c'était le Live Aid. Et donc c'était vraiment à la gloire du G8 qui faisait une œuvre de générosité phénoménale en annulant 2% de la totalité de la dette des pays du tiers monde. Donc j'essaierai de montrer en quoi en France comme ailleurs d'ailleurs le discours actuel justement du G8 aussi bien que des institutions financières internationales, alors j'emploierai peut-être le terme DIFI, donc voilà, c'est les institutions financières internationales, cela comprend le FMI, la Banque mondiale et consorts, la BAD, enfin la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, enfin etc. Je reviendrai un petit peu sur les allègements de dette, effectivement, qui viennent rentrer dans le cadre de l'aide publique au développement. Alors, je voudrais juste faire un rappel, une petite comparaison entre un calcul qui est là depuis longtemps, hein, qui a été, c'est un calcul du PNUD, qui explique qu'il suffirait de 100 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour subvenir à tous les besoins en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'eau potable, en matière de soins obstétriques pour les femmes, alors que le budget de l'armement annuel mondial est de l'ordre de plus de 1000 milliards de dollars. Bon, petite comparaison utile qui nous donne une bonne idée de la générosité de nos gouvernements. Alors, peut-être que je vais expliquer rapidement ce qu'est le FMI et la Banque mondiale. Le FMI est une institution de Bretton Woods qui a été créée en 1944 et qui avait pour but de stabiliser le système financier international. Donc, la Banque mondiale assure des prêts, hein, aux États pour assurer son développement. Donc, dans leur statut, il est clairement mentionné qu'effectivement, ces institutions doivent porter une vision de développement dans l'économie mondiale. Seulement, pour débuter donc en 1944, juste après la Première Guerre mondiale. Merci. Tout le monde aura rectifié. ces institutions ne vont pas avoir un rôle fondamental dès le début, puisque c'est surtout d'État à État que vont se faire les prêts pour le développement, à partir notamment des années 60. Donc, les États-Unis, la France, la Russie, soviétique de l'époque, vont prêter selon leur zone d'influence, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va aider les amis. Seulement, on aide, il y a des dons, mais il y a beaucoup de prêts. Et ces prêts sont à rembourser. Et rubis sur l'ongle, hein, on n'insiste pas assez là-dessus, mais ça va très loin. Donc, ces prêts se passent relativement bien jusque dans les années 70, puisque bon, l'économie mondiale est en pleine croissance et que donc les pays du Sud vont emprunter pour développer leurs infrastructures, pour aider leur commerce intérieur, leurs industries, etc. Seulement, ces prêts ont un taux d'intérêt qui s'avère être variable. Alors, dans ces années-là, dans les années antérieures à 1979, ces prêts étaient de l'ordre d'un, enfin le taux d'intérêt était d'à peu près entre 3 et 5%. Et en 1979, la Réserve fédérale américaine décide tout simplement de monter ses prêts à de monter les taux d'intérêt à 17, 18, 20, 22%. Donc on s'aperçoit que très vite, les pays qui doivent rembourser ces emprunts ne peuvent plus rembourser parce que ils doivent déjà remprunter pour pouvoir rembourser les intérêts. Alors je parle même pas du principal de la dette qui est la dette initiale, enfin l'emprunt initial. Donc ils rentrent dans une spirale qui va continuer pendant toutes ces années-là, 70, 80. Donc en plus, il y a effectivement une récession au niveau mondial qui fait que les cours des matières premières baissent. Donc l'argent est encore plus difficile à trouver. Donc on réemprunte encore plus dans des conditions très difficiles, puisque je vais en parler, mais ce sont les plans d'ajustement structurel qui vont rentrer en jeu et qui là vont être mis en place de manière déterminante, on va dire, par le FMI, la Banque mondiale, et qui vont donc couler ces pays-là. Tous ces pays du tiers-monde. En somme, on en est aujourd'hui, en l'an 2000, enfin dans les années 2000, à des remboursements qui sont l'équivalent de 340 milliards, pardon, pas des remboursements, des transferts des pays du Sud vers les pays du Nord, de 340 milliards de dollars à peu près. Hein, pour 2003, c'était 343 milliards de dollars. Alors que l'aide au développement, ben on en a parlé, c'est plutôt autour de 70 à 80 milliards de dollars. Alors donc, dans ces transferts, évidemment, on compte les rapatriements des multinationales du Nord, qui sont toujours effectivement les multinationales qui sont dans les pays qui contrôlent le FMI, c'est-à-dire bon, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, enfin les pays du G8. Hein. Et ces pays donc vont sans vergogne demander leur dû, alors que la dette à partir des années 80-90 est déjà largement remboursée. Donc on a aujourd'hui une situation dans laquelle des pays pauvres ont remboursé à peu près à l'échelle mondiale 8 à 9 fois ce qu'ils avaient emprunté en 1980 et doivent encore à peu près 4 à 5 fois ce qu'ils avaient emprunté en 1980. Donc vous me direz que personne n'irait acheter un magnétoscope dans ces conditions. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire que les paiements se font toujours au vu et au su de tout le monde. Hein, ces remboursements sont vraiment une chose inique, puisque, comme je l'ai dit, c'est déjà remboursé depuis longtemps. Et en plus, évidemment, ça grève les budgets sociaux, les budgets d'éducation, de santé, etc., puisque si on prend un exemple pour l'Afrique subsaharienne, 4 à 5% des budgets nationaux sont réservés aux budgets sociaux, éducation, santé, alors que c'est à peu près 38% des budgets nationaux qui remboursent la dette. Bon, on voit la mise sous tutelle, effectivement, des économies de ces pays-là. Alors en plus de ça, je reviens sur les plans d'ajustement structurel parce que à partir des années 80, le FMI et la Banque mondiale vont jouer un rôle important en imposant aux pays pauvres qui ont des dettes envers les pays riches, hein, ceux que j'ai mentionnés, le G8 et d'autres, ceux qui sont aussi dans le comité d'aide au développement, hein, organisme de l'OCDE. Ces plans d'ajustement structurel, merci, impliquent en fait ce qu'on pourrait aussi retrouver de la même manière dans une Europe de Maastricht, puisque c'est un plan d'ajustement structurel, c'est-à-dire en fait les privatisations, la réduction des budgets sociaux, les suppressions des barrières douanières, la déréglementation du commerce, etc., etc. Toutes choses qui sont en fait dans ce qu'on appelle, bon, on y reviendra si vous avez des questions, on appelle ça le consensus de Washington. Donc, ces plans d'ajustement structurel sont appliqués par les gouvernements du Sud, parce qu'il faut dire quand même que, qu'il y a une complicité des dirigeants du Sud. Et bon, bah, par exemple, il y a un dernier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du Tchad tout récent, où on a un oléoduc qui a été financé avec la Banque mondiale, avec des fonds, de l'aide au développement. D'ailleurs, une partie a été garantie par une agence de crédit à l'exportation française qui s'appelle la COFAS, sur laquelle il y a tout lieu de s'intéresser, puisque, bon, bah, pour indication, hein, 40%, enfin non, 30%, pardon, des garanties données par la COFAS portent sur des ventes d'armes. Donc, ces prêts au Tchad ont permis donc la construction de cet oléoduc Tchad-Cameroun sur 1000 km, avec des indemnisations ridicules pour les paysans, par exemple, qui ont été expropriés de leur terrain cultivable, puisque, si je me souviens bien, on leur payait un manguier à hauteur de 3-4 euros, alors qu'un manguier peut rapporter, avec une bonne récolte, il me semble bien plus de 10 fois plus, hein, il me semble. Donc, c'est un peu se moquer du monde. On a donc ce remboursement qui ne rime à rien, en fait, puisque une récolte, c'est pas une seule année, c'est sur des dizaines d'années. Cet oléoduc, donc financé avec l'aide publique au développement, eh ben, la Banque mondiale avait absolument insisté auprès du gouvernement tchadien d'Idriss Déby pour que 10% de la manne pétrolière qui revenait au Tchad aille dans un fonds pour les générations futures, bon, pour des causes environnementales, sociales, etc., pour un développement. Bref, on vient d'apprendre que Idriss Déby a décidé que finalement, ces 10%, il allait prendre pour calmer la population avec des budgets sociaux. Enfin bon, moi je crois pas, hein. Je pense qu'il a beaucoup de problèmes actuellement, et notamment des désertions dans son appareil militaire, et que il a besoin d'argent pour payer d'autres personnes, enfin bon, pour aussi racheter peut-être des armes, de l'armement, pour garder le pouvoir. Bon, bref. Donc on voit que là, par exemple, la Banque mondiale est assez embêtée, parce que vraiment, c'était pour une fois elle qui avait insisté pour qu'il y ait vraiment un budget social qui soit mis en place sur cet oléoduc, hein, grâce à cet oléoduc. Donc, pour en revenir au plan d'ajustement structurel, il faut être clair, c'est vraiment les mécanismes qui permettent un pillage des ressources des pays du Sud, de l'Est aussi, hein, parce qu'actuellement, avec la chute du mur, il y a eu les pays de l'Est se sont retrouvés dans une situation similaire aux pays les moins avancés ou les pays en développement. Donc, on s'est retrouvé avec ces financements qui ne servent en rien au développement, qui permettent une corruption, bon, des dirigeants du Sud, mais aussi des dirigeants du Nord, qui permettent un rapatriement des bénéfices liés à l'extraction des matières premières, qui permettent aux pays du Nord donc de s'enrichir en fait sur le dos des plus pauvres. Alors, quand je dis les pays du Nord, je pense pas à la population des pays du Nord. Je pense aux banques privées, aux multinationales, dont on a un bon exemple, par exemple en France. Hein, je crois que c'est plus de 50% des multinationales en Afrique sont des multinationales françaises. 60%, il me semble, je sais plus. Donc, c'est ces entreprises-là hein, qui pillent le pétrole, le cacao, le café en Afrique. Hein. Donc, à des tarifs, évidemment, défiant toute concurrence. Alors, donc on a vu un petit peu que bon bah la dette c'est vraiment le mécanisme central qui permet de pomper les richesses du Sud pour les rapatrier dans les poches des riches du Nord. Seulement le rapport avec l'aide au développement il est quand même assez clair. C'est-à-dire que beaucoup de fonds avancés par les pays du Nord, par ceux qui composent le comité d'aide au développement, par ceux qui composent, qui sont au FMI, qui sont à la Banque mondiale, ou par le biais de l'aide bilatérale, servent avant tout, effectivement, à remplir les poches, donc toujours les mêmes, et à maintenir en fait, servent aussi par le même. Enfin, c'est pas que ça sert, c'est que ça maintient les pays pauvres dans une misère noire. Donc là, il y a quand même aussi une grande hypocrisie de la part des gouvernements du Nord. Parce que, comme on l'a vu avec ce que je disais au début, on fait semblant de faire des efforts phénoménaux pour aider les populations du Sud, aider les gouvernements du Sud à régler leurs problèmes de développement. Et puis, en fait, il s'avère que, on va annuler une dette, et puis l'année suivante, on va leur porter dans l'aide publique au développement. Donc c'est bingo deux fois, c'est le bonus fois deux, quoi, en fait. C'est-à-dire que y a une annulation de dette à une année T. Donc cette annulation est médiatisée, comme on l'a vu dernièrement. Et puis l'année suivante, cette annulation rentre, comme l'a montré Guillaume, dans l'aide publique au développement. Et là, par exemple, la France peut s'enorgueillir d'avoir augmenté son aide publique au développement. Ou alors le Portugal, avec une annulation de dette à l'Angola, va voir son aide publique au développement multipliée quasiment par deux. Mais c'est vraiment... Il faut savoir que ces dettes-là, de toute façon, elles n'auraient jamais été remboursées. Elles n'auraient jamais pu être remboursées par les pays du Sud. C'est pas possible. Ils sont déjà tellement dans la misère qu'ils ne peuvent plus avancer les fonds pour rembourser. Donc c'est des créances douteuses sur lesquels on va tirer un trait, quoi. Mais on va profiter de l'effet médiatique pour dire on est généreux. Alors, c'est quand même... je pense que c'est très important de casser ce discours, puisque, d'une part, ça donne bonne conscience. Auprès de la population, on se dit, on fait quelque chose, et ce quelque chose est fait, donc s'ils n'arrivent pas à se développer, c'est qu'il y a un autre problème, et c'est peut-être leur problème. Donc l'hypocrisie est telle que je vais quand même revenir rapidement sur un exemple qui est dramatique, quoi. C'est l'exemple du Rwanda. Faut savoir quand même que les pays du Nord, et la France notamment, puisque c'est quand même la France qui a été derrière toutes les initiatives prises par le FMI, la Banque mondiale, ou si bien l'ONU, mais c'est pas sur le critère financier, donc la France a eu une implication assez honteuse dans ce problème-là, les Rwandais, après le génocide, jusqu'en 2004, ils ont remboursé, on va dire, les machettes du génocide. Ils ont payé les machettes du génocide, les prêts qui ont été accordés à Habyarimana, alors que l'appareil génocidaire en 90, 91, 92 et encore plus 93, il était connu quand même de ceux qui voulaient le savoir. Eh ben, on finançait cet appareil génocidaire par le biais de l'aide au développement. Donc là, le discours, il est vraiment à casser, parce que d'une part, la bonne conscience, elle est toujours pour les mêmes, et d'autre part, bah, les transferts financiers continuent. Donc on a toujours de l'argent qui part du sud vers le nord. Alors, pour donner un exemple, je vais revenir un petit peu sur les allègements de dette faits par la France. L'aide publique au développement en France, hors allègement de dette, elle baisse, hein, puisque bon, en 2001, il y avait une aide de 4 milliards 115 millions d'euros. Et puis en 2003, 3 milliards 800 millions d'euros. Sauf qu'avec les allègements de dette, bah on passe de 4 milliards 600 millions d'euros en 2001 à 6 milliards 400 millions d'euros en 2003. Donc on voit l'artifice. Mais bon, il n'y a pas que la France, hein, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment assez honteux. Autre chose qui permet effectivement de montrer l'hypocrisie des dirigeants du Nord, c'est que s'ils devaient revendre ces créances douteuses qu'ils allègent, donc enfin où ils font des remises de dette, s'ils devaient les revendre sur le marché, au prix du marché, j'entends à des instituts privés, des banques privées ou autres, ou par exemple des fonds vautours, comme, on reviendra là-dessus si vous voulez. Mais par exemple, alors là, j'ai pas les chiffres pour la France, mais les États-Unis appliquent une décote de 92%. C'est-à-dire que si vous avez 100, une dette de 100 milliards, enfin de 100 millions, 100 milliards, c'est beaucoup pour un pays, mais si vous avez une dette de 100 millions, et que vous la revendez sur le marché, vous allez la vendre 8 millions. Mais dans l'aide au développement, eh ben c'est 100 millions qui apparaissent. Tout bénef, encore une fois. Donc, le discours, il est vraiment assez puant. Je n'ai pas d'autre mot.
L'annulation est en fait un simple réajustement à la valeur marchande. En fait.
Voilà. Donc c'est effectivement strictement la valeur nominale qui apparaît, c'est-à-dire la valeur du début, alors que ça vaut strictement pas ce que ça vaudrait.
Alors Renaud, justement, puisque tu as montré, je sais pas si tout le monde a compris, les raisons pour lesquelles au départ les pays se sont adressés à la Banque mondiale ou FMI pour avoir des crédits, c'est parce qu'ils étaient les moins chers sur le marché. Il est bien évident que demander sur les places financières coûterait 5 à 10 fois plus cher. Donc dès le départ, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour, si j'ose dire, accrocher et rendre malade ces économies. Je vous renverrai d'ailleurs à la table de presse où il y a ce qu'on appelle le dossier noir numéro 17 sur la dette, où on montre bien le mécanisme de la dette dans deux pays bien précis, qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola, justement. Ensuite, on a une espèce de comptabilité via l'aide publique au développement qui enfonce encore plus les pays. Donc c'est ce qu'on appelle la fabrication de la dette illégale. Donc à partir du moment où certaines personnes qui s'occupent du développement se sont rendues compte comptablement qu'entre 80 millions de milliards de dollars de dettes publiques qui sont données vers les pays du Sud et qui en renvoient à peu près 480 voire 500 milliards de dollars, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En plus, ce qu'on n'a pas expliqué, Renaud, ce sont les effets les plus visibles. Tout le monde a en tête les images de Ceuta et de Melilla, des gens qui, justement, poussés par la misère dans des pays où le FMI et la Banque mondiale, en disant « vous remboursez les intérêts de la dette, mais pour ça, vous baissez le salaire des fonctionnaires, vous baissez les crédits au centre de santé, vous faites payer plus cher les médicaments, rien n'est gratuit, tout doit être payant ». L'eau, tous les services doivent être payés dans ces pays-là, justement pour qu'on soit sûr qu'à la fin de l'année, sur le marché financier, les pays auront payé une partie des intérêts de la dette. C'est même pas la totalité des intérêts, c'est une toute petite partie. Donc, on voit ces populations qui savent que de toute façon, elles vont mourir de cette misère qui est entretenue. Donc, elles n'ont plus qu'un espoir, c'est justement aller dans les pays du Sud. Donc, on a tous, oui, mais il y a certains pays du Sud aussi, où il est beaucoup plus simple. Il y a les deux. Il y a ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent l'immigration, elle est vers les pays les plus proches, plus aisés. Je pense notamment au phénomène qui s'est passé dans les années 60 pour la Côte d'Ivoire, par rapport au Burkina ou au Mali. Voilà. Donc, on s'imagine que la plupart des immigrés viennent dans l'Europe du Nord. Non, ils se répartissent dans les pays, justement, tout autour. Et ce n'est pas la partie la plus importante qui vient vers le Nord. Il y a une espèce de bonne conscience entretenue, comme le dit bien par Renaud, par des effets médiatiques. Oui, on prête, on donne, on annule. Alors qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est une escroquerie. Et il ne faut pas oublier, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce contre-sommet. Nous intervenons dans cette semaine de solidarité auprès de vous qui êtes des citoyens. Tout ceci se fait avec votre argent, notre argent. Donc on peut se poser la question, une fois qu'on a compris les mécanismes ou qu'on s'est informé, parce qu'on a le droit de s'informer, ou le devoir même, est-ce qu'on est d'accord pour le faire avec notre argent? Alors, il y a des organisations, dont le comité d'annulation de la dette, qui ont décidé de réagir de deux façons. Il y a Survie, qui a un discours qui dit, est-ce qu'on est d'accord de le faire en notre nom? Et il y a le comité d'annulation pour la dette qui dit, on ne le fait pas en notre nom, mais on demande l'annulation d'une dette illégale. Et j'aimerais que Renaud conclue en expliquant le travail du CAD Team, justement, du CAD Team pour l'annulation de la dette, sachant qu'on sait très bien qu'il y a une dette qui est fabriquée, mais il y a aussi une dette qui est entretenue parce qu'il se trouve que c'est le pillage des fonds propres du pays via les paradis fiscaux qui est en fait la fortune des dictateurs. Mais ça, tout ce qui est mécanisme des paradis fiscaux, ce sera la dernière intervention de M. Gayoso. Donc Renaud, le comité... Oui, José, pardon, excusez-moi, à chaque fois je fais l'erreur. M. Gayoso. Donc le travail et le pourquoi d'un comité d'annulation de la dette tout à côté de gens comme Survie qui disent sommes-nous d'accord pour que ce soit fait en notre nom et avec notre argent?
Oui, merci. Je voudrais juste revenir sur deux petits points que j'ai pas mentionnés, effectivement. Bon, rappelons juste, et Guillaume ne l'a pas dit non plus, mais que l'aide au territoire d'outre-mer rentre dans l'aide publique au développement. Hein, la Polynésie française, et la Nouvelle-Calédonie, et autre chose, l'accueil des réfugiés que tu as mentionné, je comptais le faire parce qu'il y a quand même aussi encore une chose qui hérisse le poil, mais on a des accords de réadmission avec certains pays du Sud, notamment le Maroc, et en 2005, la France aura donné ou prêté 373 millions de dollars pour l'accueil des réfugiés, accueil entre guillemets, c'est-à-dire les charters à la limite hein, et les centres de rétention. Hein. Donc ça rend dans l'aide au développement. Je pense que effectivement, je vais donc revenir un petit peu sur les questions du CAD, la question de la dette, la problématique de la dette. On l'a vu dans un cas comme celui du Rwanda. Il y a déjà des jurisprudences au niveau international qui ont été appliquées parce qu'il y a un rapport de force qui a été favorable aux États-Unis qui, par exemple, à Cuba, ont fait annuler la dette par rapport à la dette cubaine par rapport à l'Espagne.
L'époque Batista.
Non, c'est vieux, mais c'est en 1898. Oui. Et donc c'est un rapport de force. Hein. La dette odieuse a été appliquée. Elle a été aussi appliquée dans d'autres, au Nicaragua, oui. En 1925 ou 27, je ne sais plus la date précise. Mais toujours sur un rapport de force. Et là, il était favorable aux États-Unis, effectivement. Donc pourquoi pas cette dette odieuse, elle existe déjà au niveau jurisprudence internationale. Hein, et il y a d'autres jurisprudences, notamment la sentence Olmos en Argentine, qui permettrait, toujours en rapport avec la construction d'un rapport de force sur cette question, peut-être d'obtenir satisfaction et non pas avoir uniquement une annulation de dette, parce que ça c'est un premier pas, mais des réparations. Donc il y a toutes ces questions de dette odieuse, c'est-à-dire, je vais pas revenir sur la liste des dictateurs africains ou autres qui ont pillé leur pays, qui ont cassé leur population grâce aux aides publiques. Mais on pourrait citer Mobutu, 8 milliards de dollars dans des comptes en Suisse, quoi. Je vais peut-être dire une bêtise, excusez-moi, je reprends juste.
Il y a aussi Pinochet, l'exemple. Plus récent, puisqu'il est apte à être jugé.
Ouais, je vais vous donner. Je les ai sous les yeux, donc je vais vous donner les chiffres. Mais bon, Mobutu,
Zahir Z.
Oui, mais c'est pas l'ordre alphabétique. Voilà, ouais, pardon. Dette odieuse, 13 milliards de dollars. La dette du Zaïre, c'est 11 milliards de dollars en 2001. Bah, il y a des mains, on en parlait, hein. Il y a des mains.
Chili, Pinochet.
Alors, le Chili, par exemple, Pinochet, dette odieuse, 12 milliards. La dette, le stock de la dette en 2001, c'est 38 milliards. Mais bon, il y a des mains, c'est encore plus simple, justement, parce que bon, il a tout le temps été au pouvoir. Bon, bah voilà, sa dette, c'est la dette odieuse, c'est la dette du Togo, voilà. Tout simplement. Ces dettes-là devraient être annulées immédiatement en termes de si le droit international était appliqué. Et deuxième chose, il y a la dette illégitime, c'est-à-dire que quand on perçoit 8 fois ce qu'on a demandé, c'est des taux, mais c'est même pas, même des usuriers, ils pensent même pas à ça dans nos pays. Et pourtant, et c'est payé et ça continue à être payé. Donc ça, il y a aussi matière à réparation sur ces questions-là. Donc plein d'autres choses qui rentrent en compte, la dette écologique, puisque par exemple au Nigeria, on envoie tous nos ordinateurs en ce moment dans des conditions infernales. Les gens trient ces déchets qui sont dangereux, qui sont polluants, toxiques. Et ça aussi, ça fait partie d'une dette, parce qu'ils ont été fabriqués ici, ces ordinateurs. Plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui font que les questions d'annulation de la dette sont non seulement le prémisse à une justice mondiale pour un développement réel, effectif. C'est-à-dire que sans annulation de dette, il n'y aura pas de développement. C'est pas la peine d'en parler. On pourra peut-être y revenir dans le débat, mais je pense qu'il faut pas se leurrer. C'est un premier pas. C'est pas la seule chose à faire. Hein. Effectivement, il y a les termes de l'échange inégal. Mais qui est accentué par l'effet de la dette à mettre sur le terrain. Donc il y a effectivement énormément de choses à faire. Je pense que si on doit tracer des perspectives, effectivement les mouvements sociaux à l'échelle planétaire doivent s'inquiéter de cette question-là et construire un rapport de force qui soit mené dans la direction d'un droit international au service des peuples.